Rafa,
Sarah
et Lisanne.
On est les Shirley. Vous écoutez choc.ca.
À tous de vous écouter dans les airs, le magazine culturel de l'UQAM. Ici Florence et je suis en compagnie de mes très chères Olivia et
Raja.
Bonjour. Comment vous allez les filles?
Ça va très bien et vous?
Oui, et cette semaine, on reçoit à Dans les airs Gabrielle Plante, l'auteur de la pièce sur l'apparition des os dans le corps. Comment ça va, Gabrielle?
Ça va bien. Le stress de la première est passé. On a fait les premières représentations, ça fait qu'on on comprend encore plus c'est quoi le spectacle. Fait que, on est super contents, fiers.
Oui, vraiment. Puis justement, c'est un spectacle qui va être en représentation jusqu'au 11 février. Une création de la compagnie Création dans la chambre. On est en attente. Peut-être que Félix-Antoine Boutin, le metteur en scène, nouvellement directeur artistique du Théâtre Espace Libre, va nous rejoindre au cours de l'émission. Peut-être pas, mais je pense que j'aime mieux garder le suspense comme ça. Donc, c'est ça. C'est un spectacle que j'ai eu la chance d'aller voir mercredi dernier. Un petit avant-goût de la pièce pour ceux qui nous écoutent, puis on va pouvoir en parler plus en détail tout à l'heure. Dans un duo interprété par Amélie Dallaire et Gabriel-Antoine Roy, on frôle l'intime, le spirituel, le politique et l'existentialisme. Une femme millénaire que rien ne blesse cherche à ressentir le passage du temps dans son corps en se fracassant les os, en vain, dans une chambre d'hôtel en plein milieu du désert, accompagnée par un être sans nom et sans genre, reflet des premiers signes de vie sur Terre. Elle tente de reconstruire son histoire alors que son passé gratte à la porte. Alors, sur l'apparition des os dans le corps, pour vous mettre dans le bain. Ma première question pour toi, Gabrielle, ça va être pourquoi avoir choisi les os qui se fracassent? Pourquoi les os?
Dans mes lectures, tu sais, pour écrire, je lis beaucoup, là, tu sais, puis dans mes lectures plus récentes autour de cette pièce-là, j'ai découvert en dépliant la pièce que moi, tu sais, les os, je pense que ça a une fonction, tu sais, tout ce que ça a comme imagerie, là, c'est-à-dire, tu sais, l'ossuaire, la sépulture, les squelettes, la mort, puis c'est aussi ce qui reste, c'est aussi la sédimentation, c'est les momies, c'est ce qui reste après qu'on soit en vie, après que notre chair et tout ce qu'on était est disparu. Mais en même temps, il y a comme un paradoxe ou juste quelque chose qui, moi, je trouve ça super sensible, mais les os ne préexistent pas la vie, là, tu sais, dans le sens les os sont, les vertébrés sont arrivés après que la vie soit arrivée, tu sais. Il y a eu un moment, là, tu sais, une époque géologique où la roche, il y a eu un changement, peut-être c'est pas très intéressant, mais pour moi ça me tue, mais il y a eu un hasard où l'atmosphère a changé un peu, puis la roche, il y a eu plus de calcium dans l'eau, il y a eu des squelettes, des exosquelettes qui se sont comme greffé au poisson, si on veut, puis peu à peu, après des millions d'années, ça a donné comme le picaya ou picabia, j'arrive jamais à me rappeler du nom, mais le premier espèce de ver vertébré qui est comme l'apparence d'une colonne vertébrale. Puis pour moi, tout ce rapport-là d'échelle de temps, puis de qu'est-ce qui préexiste quoi, pour moi, c'est un peu l'émotion de la pièce, t'sais. C'est comment... sur quoi on peut s'appuyer pour déterminer des choses, finalement, tu sais, alors que tout est mouvant, si tu veux.
Oui, puis ce qui m'avait encore le plus frappé, puis qui me lançait en questionnement, c'est sur quoi on peut s'appuyer pour ressentir la vie, tu sais. Si on n'est pas pour ressentir le fracassement de ses propres os, ou même être insensible au regard des autres, hein, ça tourne un peu autour de
ah,
ça.
Ouais, c'est super. Tu vois, je n'avais jamais pensé comme ça, le regard des autres. Puis oui, ben oui, tout à fait. Il y a cette idée-là que sais, finalement, la métaphore est quasiment grossière là, dans le spectacle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne ressent pas les blessures, puis les blessures, là, c'est la blessure des autres, c'est la blessure qu'on s'inflige, c'est la blessure des relations. Puis comment on fait à force de blessures comme ça pour continuer à ressentir puis pas devenir insensible, tu sais. Puis en tout cas, je trouve que ça répond à ça.
Mm-hmm. Vraiment, puis il y avait beaucoup de réflexions aussi que j'ai pu sentir. Une phrase qui m'a marquée, c'était celle de « il n'y a pas de différence entre l'altruisme et l'égoïsme ». Pourquoi il n'y a pas de différence? En fait, qu'est-ce que ça voulait dire, ça?
Ouais, ça, c'est toute l'affaire de l'altruisme et égoïsme. C'est qu'à la fois, c'est difficile, cette idée-là de l'altruisme et l'égoïsme, parce que peu importe le geste qu'on pose, ben souvent, là, je trouve qu'on est souvent pris dans une espèce de cul-de-sac où chaque geste est à la fois altruiste et à la fois égoïste, tu sais. Puis bon, il y a toute cette théorie là, du gène égoïste de Dawkins, là, tu sais, qui parle que bon, on est tout en train de négocier un peu là, de manière biologique là, tu sais, ces gestes-là, tu sais, par rapport au groupe ou par rapport à soi-même, par rapport à notre production. Puis dans la pièce, il est beaucoup question de... en fait, il est question de un couple qui se sépare parce qu'il y en a un qui veut un bébé et l'autre pas. mais bon, tu as vu la pièce, c'est pas le cœur non plus de la pièce, mais au niveau de la fable, c'est un peu ça. Puis l'idée, c'est de se demander pourquoi on continue finalement. C'est plus ça la métaphore. C'est pourquoi continuer en sens là, en termes général.
Ouais. Puis mais vous le faites bien au sein de la pièce, tu sais, j'ai parlé de l'intime, spirituel, existentialiste, c'est vraiment des termes qui sont au cœur. D'ailleurs, j'ai vu que le texte est, sur l'apparition des os sur le corps a été à Dramaturgie en dialogue en 2018.
Ouais.
C'est quand même presque 5 ans. Est-ce que vous êtes fiers d'être arrivé à voir ce texte arriver en salle?
Oui, on est super fiers. Puis en plus, tu sais, ce texte-là, il suit une... Tu sais, et moi, et Félix, et Odile, et Julie, là, tu sais, tout le monde, on a des... Tu sais, on est une compagnie qui... on est mariés, mais on se trompe allègrement, là, tu sais, mettons, là, on fait d'autres choses, puis pour mieux revenir, puis ce texte-là a toujours été comme une genre de discussion en arrière-plan. Tu sais, moi, j'ai commencé à écrire des bouts de ce texte-là quand j'étais encore à l'École nationale en écriture, là, fait que c'est en 2014. Donc, tu sais, j'ai été après ça invité à Marseille, à Actoral, où j'ai réécrit des bouts, puis on a fait une lecture. Tu sais, il y a eu plein de moutures. Fait que ce texte-là, il a été créé de la même manière qui avance, là, tu sais, que la dramaturgie avance, par couche, par sédimentation, par retour sur lui-même. Ouais, je pense qu'on est fiers, mais on est particulièrement content d'avoir oublié ce texte-là et puis retourné à ce texte-là, puis de garder des traces là-dedans. Puis je pense que ça paraît ce travail-là sur scène quand on va là. T'sais.
Oui, puis comment s'est déroulée la conception du spectacle?
On s'est cassé la tête, là, comme on s'est jamais cassé la tête. Je me rappelle de Dil qui me disait « Colin, ton dernier était tellement plus facile. » mais aussi quasiment dans une... On a beaucoup aimé travailler sur Histoire populaire qu'on avait fait à Espace Libre en 2020, mais c'était quasiment une défaite de faire comme « Ah, c'était-tu trop facile ce qu'on a travaillé en 2020? » Là, on est vraiment tout le monde... La discussion est horizontale parce que vraiment, il y a des énigmes dans le texte. Le texte fonctionne sur un autre genre de dramaturgie. C'est une dramaturgie qui n'est pas univoque. On veut garder les sens ouverts. On veut croire à l'intelligence du spectateur qui va faire son chemin dans le spectacle. Tout en dialoguant avec lui. Fait que il y avait plein de choses à travailler en même temps. Donc je trouve que sur notre travail, là, sur comment on a travaillé, dans la conception, il y a eu vraiment de quoi qui s'est comme C'est devenu pas plat, mais horizontal. Là, c'est juste horizontal. Et tout le monde a apporté de l'eau au moulin. Puis quand Odile est arrivée avec un truc vraiment plus réaliste qu'on pensait, en fait, dans sa conception, c'est-à-dire vraiment représenter la chambre de motel, là, tout a tombé en place. Puis pour devenir encore plus. Peut-être vu le spectacle, là, c'est multiforme quand même, même si je dis que c'est une chambre de motel, ça pourrait être aussi. Une art géologique, là, ce lieu.
Puis justement, le travail, on parle beaucoup au « on ». Est-ce que avec la création dans la chambre, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur de travailler tous ensemble, que ce soit un dialogue?
Le dialogue est constant. Je pense que tout le monde a vraiment ses spécialités. Là, Odile, scénographe que tout le monde s'arrache. Julie Basse, conceptrice d'éclairage qui est full importante. Félix, évidemment, puis moi aussi, je travaille ailleurs. Fait qu'on a vraiment nos postes, si on veut. Mais en même temps, nos postes, c'est plus une manière d'entrer en dialogue. C'est une invitation. Une convocation de l'intelligence des autres. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là que si on n'est pas dans le mode création collective, tu sais, il y a vraiment des départements, si on veut. Là, tu sais. Mais le dialogue est vraiment fluide. Tu sais, c'est vraiment comme. J'aurais pas pu proposer ce texte-là à personne d'autre que cette compagnie, que ses amis aussi. Parce qu'il était vraiment une invitation pour tout le monde.
Mm-hmm. Puis d'ailleurs, à travers mes recherches, j'ai vu que l'idée à la base, dans la conception un peu du spectacle, c'est que ça allait être un stand-up comique. c'est quoi le rendez-vous final annoncé?
Ça va permettre d'illustrer un peu c'est quoi le genre de dialogue qu'on a. Moi, je suis arrivé avec ce spectacle-là qui était vraiment nommément dans les lignes, dans les références scientifiques, dans essayer de comprendre l'abstraction, puis, tu sais, bon, tout ça. Puis Félix a lu ça, puis il a dit « Ah, je pense que je vais en faire un numéro de magie victorien. » Puis là, j'étais comme... Puis là, immédiatement, j'étais genre « Ouais, je comprends exactement où tu t'en vas avec ça, puis je sais, ça va être trop, trop cool. » Puis évidemment, le dialogue continue, puis on travaille pour vrai au-delà de l'idée, tu sais. Puis les choses s'affinent, puis ça reste plus... Le numéro de magie devient plus une odeur, tu sais, juste une saveur. Puis plus on évoque ça, plus on travaille ça, plus finalement on s'intéresse à toutes les formes de représentation. Le stand-up comique rentre en ligne de compte, le numéro de magie aussi, mais le mime, la pantomime, le mélodrame. Fait qu'on est vraiment allé dans toute une série d'évocations de styles théâtraux, en fait, qui ont soit été peut-être abandonnés par le théâtre, récupérés par la culture populaire, ou juste abandonnés, comme le mélodrame, puis le mime à la Marcel Marceau, tu sais. Je veux pas nier, là, mais dans le sens, sur, mettons, la scène montréalaise. Puis, c'est ça, le ce qui est annoncé par rapport au stand-up comique. Je pense que c'est aussi pour... travailler, tu sais, même si c'est énigmatique le texte, même si on beurre dans les références scientifiques, on est quand même dans une comédie. Oui. Une comédie existentialiste, si on veut. Là.
On rit. Mais ça frôle, des fois, tu sais, moi, ma perception, vraiment, des fois, il y avait des segments qui, comme tu l'as dit, en fait, vous touchez à différents styles, puis ça paraît dans le travail, dans ce qui est livré sur scène. Il y a une complicité aussi. Est-ce que Amélie Dallaire et Gabriel, c'est leur premier projet ensemble? Je veux dire, ils ont vraiment une synergie ensemble.
Ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Amélie, donc, c'est une actrice avec qui on a fait la lecture en 2018, puis c'est aussi... moi, j'avais travaillé le CID, j'avais fait une relecture du CID avec elle aussi, puis c'est comme une rencontre, tu sais, Quand on a publié le livre, c'était sûr qu'on faisait une préface ensemble parce que j'ai vraiment écrit le texte en pensant à elle, à comment elle termine ses phrases, comment elle louvoie dans le sens. Gabriel, j'ai fait l'école avec lui, puis on s'est retrouvés un peu, puis il a retrouvé Félix aussi, puis il est vraiment un créateur, puis tu sais, il aborde la présence scénique d'une manière étrange. Ben, étrange, c'est bon, là, tu sais. Puis, Amélie, on a dessiné à un moment donné, au début, c'était supposé être un solo pour Amélie, puis finalement, en dépliant le texte, ça n'avait plus de sens. Fait qu'on a invité Gabriel Antoine un peu juste par instinct. Félix l'a appelé, puis ils sont rentrés dans la salle de répète ensemble la première journée. Puis on leur a dit, faites-nous des numéros de magie. Les deux n'ont aucune connaissance en magie, là, tu sais. Ils nous ont fait des numéros de magie, puis c'était un des meilleurs spectacles que j'ai vu, là, une espèce d'intro, là, tu sais, de 50 minutes extraordinaire. Puis on dirait que après ça, la complicité a juste comme grandi dans le spectacle. Puis je pense que ce travail-là, super sensible, ce travail d'interprète, là, tu sais, il y a vraiment un travail d'interprète qui est tellement beau à voir, là, en ce moment, je trouve, là, avec ces deux-là. Fait que, ouais, ils se connaissaient pas avant. C'est vraiment le travail qui fait ça.
C'est le hasard des choses.
Ouais.
Il y a quelque chose de magique autour de ça, donc on retourne dans les thèmes un peu de la pièce. Donc, merci beaucoup. C'est sur l'apparition des os sur le corps qui est au Théâtre Prospero jusqu'au 11 février. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Puis, dans le fond, on a parlé un peu de l'équipe de la création dans la chambre. Juste répéter les noms. Donc, on a Gabriel Plante, qu'on a ici avec nous aujourd'hui, l'auteur de la pièce, Félix-Antoine Boutin, metteur en scène, Julie Basse dans la direction artistique, Odile Gamache, concepteur affilié aussi, Christophe Lamarche-Ledoux, direction générale, Émilie Martel, une super équipe. On vous invite à aller voir ça. Qu'est-ce que tu te souhaites pour l'année 2023?
Wow! Qu'est-ce que je me souhaite pour l'année 2023? Retrouver mon petit ermite intérieur, retourner à écrire des choses bizarres, puis continuer à être autant en amour avec les personnes que tu viens de nommer.
OK. Mais merci beaucoup. C'est super beau. Merci. Ça. Puis on vous souhaite une belle continuité. Tu salueras Félix-Antoine de notre part. Ce n'est qu'une partie remise.
Il reviendra, c'est sûr.
Oui. Ben, vous reviendrez nous visiter à Choc. On est toujours très heureuses de recevoir.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci.
Bye. À bientôt. Bye.
Vous écoutez Dans les airs sur choc.ca. Après la pause, Estelle Grignon vient nous parler du ballon bleu avec Velours Velours du vendredi dernier. On se laisse en musique.
Je pense que j'ai toujours eu le cœur à bonne place, mais j'avais besoin de quelque chose pour me remettre sur la traque. C'est pas une ponce de gin ni de me défoncer la face. C'est un ami fidèle, un compagnon à quatre pattes.
Le chien énorme et gentil, le chien énorme et gentil.
Dans ma vie, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui m'a choisi. Il a de grandes oreilles pour écouter tous mes problèmes. Il ne sait pas parler ni me dire que je suis toujours le même. Oh, oh. Quelque chose a changé, j'ai fait des efforts tous les jours pour m'améliorer.
Énorme et gentil, le chien énorme et gentil, le chien énorme.
très gentil par Velours Velours.
Oui. Il est énorme et gentil.
Et très très gentil. Très gentil. Parlons du loup, du chien. On a vu Velours Velours au Ballon Bleu. Estelle est allée voir vendredi dernier.
Oui, allô, comment, oui, ça, c'est moi, Estelle. Bonjour, je suis directrice musicale de Choc et je suis allée voir Velours Velours. C'était au Petit Campus, l'événement, le bal en bleu. D'ailleurs, j'avais reçu Velours Velours en entrevue ici même dans le studio B de Choc pour l'émission du Palmarès. Et je pense que la chanson qu'on vient d'entendre résume bien l'ambiance de la soirée. Déjà, une des choses que je trouve absolument fascinante, il faut comprendre, le Velours Velours, c'est un artiste qui a fait paraître un EP. Puis il a fait paraître une toune, genre deux jours avant le spectacle. C'était sold out, là. C'était à guichet fermé. Puis l'énorme chien très gentil n'existait même pas encore, que c'était déjà à guichet fermé. Il annonçait les artistes puis les invités surprises, puis c'était déjà à guichet fermé. Il n'y a pas eu le temps de finir. T'sais, les autres ont tous pensé, là. C'est gros, ah oui, on va faire là, une campagne de promotion incroyable. On va faire une publication tous les jours pour annoncer chacun des 7 invités qu'on va avoir avec nous. Puis finalement, ils ne sont même pas rendus jusqu'à la fin, puis ils avaient tout vendu. J'ai la misère, on dirait, à comprendre. Pas à comprendre, mais tu sais, à comment un artiste qui est autant au début de sa carrière, mais, ou à tout le moins sa carrière médiatique, sa carrière culturelle, réussit non seulement à remplir le Petit Campus, comme ça. Mais surtout, l'événement s'appelle le bal en bleu. C'était donc important que tout le monde s'habille en bleu. Et les gens étaient tous tellement, tellement beaux.
Ah ouais? Est-ce qu'ils étaient tous en bleu? Est-ce que tout le monde s'était vraiment passé?
Tout le monde s'est habillé en bleu. Il y avait des gens qui avaient des costumes élaborés, des maquillages élaborés. Moi-même, j'ai sorti ma robe bleue en velours que j'avais pas portée depuis le GAMIC, le gala alternatif des musiques indépendantes du Québec, il y a de cela quelques mois. Alors, tout le monde était hot, là. C'était fou. Puis c'est de voir justement autant de gens, non seulement faire comme « Ah, oh, OK, j'imagine que samedi, j'ai rien de prévu, mais aller voir un petit spectacle de musique », mais comme des gens qui sont à ce point investis déjà dans le projet de Velours Velours. Velours Velours, d'ailleurs, qui avait, je l'ai glissé un petit peu, j'ai dit un petit peu un mot là-dessus, énormément d'invités. Des invités de différents... il y a des artistes un peu plus connus, des artistes qui sont peut-être plus émergents aussi. Il y avait une belle variété, en tout cas. Allo Fantôme était là. Billy, qui est sa coloc, d'ailleurs, était là. Rose, qui a gagné les Francouvertes, était là et a fait une performance absolument enlevante. Tu sais, c'était juste Raphaël de Velours Velours. Raphaël qui est Velours Velours. C'est comme les louanges, c'est juste un gars. Puis il était avec Rose, tu sais... Un micro au milieu, les deux qui chantent dans le même micro avec une guitare acoustique. Et la voix de Rose, qui est tellement incroyable. Puis l'affaire avec Rose, j'en ai parlé d'ailleurs après le spectacle, j'étais comme... Elle a pas de tune en ce moment sur Spotify. Il travaille sur un album. Fait que les seuls moments où je peux entendre sa voix, c'est quand je la vois au spectacle. Puis à chaque fois, c'est meilleur que ce que je me souvenais. C'est absolument enlevant.
Moi, Rose, je l'ai vue à la première partie d'Ariane Roy au MTLUS. Puis vraiment, c'est la première fois que je l'entendais chanter. J'avais déjà entendu parler d'elle comme artiste, mais elle a une voix qui te coupe les jambes. Sérieux.
C'était un merveilleux moment. Il y avait aussi Étienne Dufresne. Il y avait Alex Berger qui était très, très cabotin sur scène. J'ai trouvé ça bien drôle. Il a fait monter tout le monde. Il a dit moi, tantôt, j'étais dans la salle, j'avais du fun, là, sur la scène. Il avait amené une échelle, je sais pas pourquoi. Puis il était comme, là, j'ai plus de fun, puis j'aimerais ça. Puis là, il a juste fait monter la moitié de la salle sur scène. Puis là, tout le monde dansait, tout le monde chantait. Puis voilà, il y avait également Mantis, qui était là, le rappeur de l'AF, ainsi que Vanille, qui était présente. Rachel était sur place. Faut dire qu'il y a quand même une ambiance très bon qui était là. Parce que bon, c'est... une étiquette de disque, mais aussi une agence de spectacle. C'est eux qui font du booking en ce moment pour Velours Velours, mais aussi bon, des artistes comme Allo Fantôme, Vanille, c'est du monde de bon. Mantis travaille pour eux, même s'il n'est pas signé avec eux. T'sais. Fait qu'il y a peut-être un peu ça aussi qui a aidé à créer cette ambiance-là, mais les artistes étaient tellement fusionnels. Ça n'est pas genre, oh, on va t'imposer que tu fasses un show puis que tu prennes ce gars-là, ou genre, ah, ben là, tu fais pas beaucoup de shows ces temps-ci, fait qu'on va te mettre sur le show de Velours. T'sais, c'était pas ça. Il y avait vraiment une chimie qui était là, il y avait une camaraderie qui était là. Il y avait des beaux moments par-dessus beaux moments qui étaient là. Et il y avait également un after party qui, dans mon cas, s'est terminé très tard. Puisque, ben, tu sais, c'est un bal. Il faut aussi bien faire l'après-bal sur place Au petit campus, c'était prévu. Fait qu'on a dansé sur place, puis on a jasé avec les artistes.
Le after, me semble, c'est Mean Maureen qui faisait le DJ, là, après.
Oui.
Ouais, c'était comment, ça?
C'était très chouette. C'était des chansons de DJ qui a du goût, mais sans s'en mettre les affaires les plus obscures non plus. Les chansons n'avaient pas nécessairement une thématique bleutée, de la même façon que dans le spectacle. Volo, rechanter la pièce « La dame en bleu ». Également, Vanille, au début, a fait une chanson, puis j'étais comme « Ah, c'est bizarre, elle fait pas une de ses nouvelles tunes ». Puis après ça, j'ai compris que la tune qu'elle jouait, c'était « L'été bleu ». Ah, ben oui, OK.
C'était comment au petit campus? C'était aménagé comment avec... Parce que j'étais là en début janvier pour Stereo Frame, puis il y avait beaucoup des rangées de chaises, j'imagine que... Ils ont pas mal vidé la place.
Non, c'est ça. Toutes les chaises étaient vraiment sur le côté. Les pauvres barmen, mon Dieu, les gens avaient soif là, dans ce show-là parce qu'il y a des gens qui ont attendu tellement longtemps pour avoir leur verre. Puis c'est pas parce que les filles derrière le bar étaient lentes, c'est juste qu'il y avait beaucoup de monde. Puis même rentrer dans le petit campus, c'était difficile parce qu'il y avait comme trop de gens qui étaient là en même temps. Beaucoup de gens, beaucoup d'ambiance, ça c'est certain. Puis écoutez, si jamais vous avez manqué ce spectacle-là, et que vous voulez vous reprendre, sachez que le 11 février, au Pantoum, à Québec, le Pantoum qui est une salle absolument mythique de la ville de Québec, un épicentre tellement important de la scène musicale de la Québec-ville. Dans le cadre du Focof, donc le 11 février, il y aura une deuxième édition du Bal en bleu. Les billets sont au coût de 20 $. Sachez toutefois que ce ne sera pas les mêmes artistes, ce ne sera pas les mêmes invités. Naturellement, c'est pas tout le monde qui a les mêmes disponibilités. On a appris tout à l'heure que Charlotte Brousseau, qui est une artiste qui a fait les Francouvertes l'année dernière, qui a fait un spectacle aussi pour la rentrée de Choc cette année et qui est absolument merveilleuse, va être une des 5 invitées. Après ça, moi, on spécule, là, mais tu sais, Vanille a fait un show à Québec, genre, le lendemain ou la veille, puis a fait comme une couple de shows là-bas. Fait que si Sylvanie, elle pouvait être là à Montréal, puis là, elle va être à Québec, elle peut sûrement faire un petit crochet, tu sais.
On va lui demander cette semaine dans les studios de Choc.
Oui, on l'arrête.
Probablement, mais si ça se trouve, ça va peut-être même être déjà annoncé d'ici là. Parce que Charles Brousseau, c'était tout à l'heure, mais ils vont sûrement annoncer comme un artiste par jour toute la semaine. Sinon, Raphaël n'a pas voulu me donner d'autres exclusivités sur qui seront les autres artistes qui seront là. Mais je sais pas, c'est Québec. On peut spéculer. Peut-être Ariane Roy, peut-être Valence, Narcisse. Je pense aux artistes de Québec en ce moment. Lou-Adriane Cassidy dans ce coin-là.
Les Louanges de Lévis.
Les Louanges de Lévis. Peut-être Hubert Lenoir, pourquoi pas. Lenoir. Ariane Moffat est née à Saint-Romuald, on le sait pas.
Puis en plus,
fait une collaboration ensemble.
Et oui, sur Poussière d'Ange, son album. Exactement.
Voilà, exactement. On en a parlé aussi d'un petit peu de cette version de Poussière d'Ange avec Volo Velour lors de notre entrevue l'autre jour. Mais voilà, pour vrai, c'est absolument incroyable. Ça m'a fait énormément de bien, je pense, comme événement. Puis, tu sais, des fois, juste d'avoir une occasion, une excuse de bien s'habiller, de bien se maquiller, de se chixer, de se mettre, tu sais, sur son 36, son 42, son 68, tu sais, d'aller danser, d'être avec du beau monde, prendre des belles photos, puis manger une bonne poutine à peu près 3h30, 4h du matin, tu sais.
Ça fait toujours du bien.
Ah, mon Dieu, absolument.
Mais merci Estelle, merci. Puis vous avez noté ça, votre agenda, le 11 février prochain. Bal en bleu à Québec, au Pantoum. C'est un rendez-vous.
À ne pas rater.
Oui. À ne pas rater, non.
Oui, on se laisse en musique, puis on va continuer avec l'entrevue de Olivia et la directrice artistique du théâtre pour la...
Ancienne directrice artistique au théâtre du Trident qui a créé cette merveilleuse pièce Maurice au théâtre d'aujourd'hui avec 7 représentations en rappel.
Maurice dont tu nous avais parlé
la semaine dernière. Exactement. Donc on l'a reçu dans les studios de Choc et vous allez l'entendre après qu'on se laisse en musique.
Personne. Personnage public, festival anonyme, dans la forêt magique, drogue et jeu de lumière. Tous les jours, les oiseaux de nuit m'offrent la mort. Tous les jours, les oiseaux de nuit m'offrent c'est ce qui me fait sentir en vie. Je pense c'est ce qui me fait sentir en vie. Personnage public, festival anonyme, dans la forêt magique, drogue et jeu de lumière. Festival anonyme, personnage public, dans la forêt magique, drogue et jeu.
Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anne-Marie Olivier, créatrice et comédienne pour la pièce Maurice au Théâtre d'aujourd'hui, aussi ancienne directrice artistique au Théâtre du Trident. La pièce Maurice est une production de la nouvelle compagnie Théâtre Bienvenue aux Dames. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui.
C'est un grand bonheur.
Je suis allée voir la pièce le 17 janvier. Formidable, puis je dis ça pas juste parce que t'es venue pour l'entrevue, hein? J'ai vraiment apprécié. Puis d'ailleurs, mes collègues Florence et Raja qui font le show avec moi en direct tous les lundis avaient tellement le goût d'y aller, je pense que tu vas vendre des billets en plus. Ben d'abord, j'aimerais parler un peu de l'histoire de Maurice Dancause. Parce que tu as passé beaucoup de temps avec lui en préparation pour ce spectacle. Puis, si je comprends bien, il est parfois aussi dans le lieu du spectacle. Il va voir les représentations de temps en temps.
Oui, ben en fait, j'ai l'impression que son aphasie amène aussi une part d'oubli. Il oublie certaines choses. Il se souvient du spectacle, mais il ne se souvient pas de tout. Comme hier, il était là avec son fils, la mère de son fils. Puis on avait une discussion après spectacle, donc on lui avait demandé d'être là. Il vient, puis bien entendu, comme il adore l'opéra depuis son accident cérébrovasculaire, mais il adore le passage où il y a de l'opéra dans le spectacle. Il pleure, comme il m'avait confié en entrevue. C'est-à-dire que c'est un homme qui, après son accident, son cerveau a complètement changé. Avant, par exemple, il aimait beaucoup le jazz, le rock. Maintenant, pas du tout. Il a écouté pendant 20 ans 4-5 heures d'opéra par jour parce que, comme il n'était pas capable de dire ses émotions, l'opéra lui permettait d'exulter toutes ses affaires. Puis, il dit opéra besoin, musique essentielle, parce que nourrissez, puis pointe son cœur. C'est-à-dire qu'il a autant besoin de manger que d'écouter de l'opéra. Tu sais, moi, je suis une artiste, je veux être utile dans mon monde, puis je me pose souvent des questions sur l'utilité de l'art dans nos vies, à quoi ça sert des artistes. Mais quand t'entends ça, c'est comme ça relativise bien des choses.
Oui, et c'est ce point-là que je voulais aborder. Pendant votre entrevue avec Émilie Perrault à Radio-Canada, vous avez parlé de comment Maurice se nourrit du spectacle. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti de votre interprétation pendant la pièce. Maurice peut finalement exprimer ses sentiments intériorisés avec cette représentation de sa vie, si je comprends bien.
C'est presque ça. Si lui était là devant toi, il dirait « proche ». Où il dirait oui, mais non.
D'accord.
Donc, je développe. En fait, avant, il se décrit comme sa vie avant, comme un intellectuel pur, mais qui avait émotion. Puis là, il dit maintenant toute émotion, toute fessée, tout le heurt, tout le touche. Mais c'est ce qui lui fait dire aussi qu'à choisir entre sa vie d'avant et celle de maintenant, il préfère celle de maintenant, malgré toutes les embûches, à manger, à se déplacer, les ruptures de liens avec les amis, les ruptures de liens de la famille, parce que l'aphasie, c'est vraiment confrontant. Le fait d'être handicapé aussi, mais même s'il y avait, malgré toutes ces difficultés-là, à choisir entre sa vie d'avant et celle de maintenant, le fait d'avoir accès à ses émotions, il dit qu'il... Il choisit maintenant parce que il se considère comme une meilleure personne.
Bien, merci de m'éclaircir sur le sujet de Maurice. En fait, c'est comme ça doit être un cadeau dans sa vie qu'il a tombé sur toi, une interprète qui peut transformer son vécu en pièce de théâtre puis communiquer ça à un grand nombre de spectateurs qui peuvent enfin entendre son histoire.
En fait, oui, après le spectacle, souvent, il dit « émotion ». Puis, il est très content que son histoire soit su. Mais, tu sais, moi, je suis une comédienne qui écrit, mais je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie que le réel était bouleversant. Bouleversant de résilience. Fait que j'ai commencé à travailler à partir de cueillettes d'histoires vraies. Fait que c'est peut-être un cadeau pour lui, ça, j'ose pas présumer le dire parce que je suis pas lui, mais il dit quand même, il va, ses réponses vont dans ce sens-là, mais c'est aussi un cadeau pour moi. Parce que, c'est ça, on s'est rencontrés dans un party que j'étais obligée d'aller, j'y allais un peu à reculons, puis j'ai fait, ben voyons donc. Il y a des humains qui se font frapper, qui ont comme des accidents de char, tu sais, là, c'est pas un accident d'auto qu'il y a eu, mais tu sais, notre vie est un parcours d'accident. Puis lui, il a reviré ça de bord. C'est comme... J'étais là, je l'écoutais raconter sa vie. Je dis, voyons, on dirait qu'on peut mettre ça sur une scène, puis je pense que ça marcherait, tu sais. Donc, tu sais, moi, quand je travaille sur des sujets, je vais cueillir des fois des cueillettes d'histoires vraies. Je vais interviewer des centaines de personnes jusqu'à temps d'avoir l'histoire qui, pour moi, me dit, ah, ça, c'est peut-être utile pour d'autres humains de l'entendre. Mais là, celle-là, ça a été comme une révélation. Ça m'est apparu, puis là, j'y repensais le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante, le mois suivant. Puis tu sais, comme créatrice, comme créateur, quand un sujet que tu n'oublies pas, que tu continues d'y penser, des fois, c'est un signe qu'il faut que tu en parles. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça, je ne veux pas l'air trop ésotérique. Mais pour moi, ça veut dire que si tu y repenses, c'est qu'il y a quelque chose là, il y a un sujet qui mérite d'être exploité, exploré. Fait que, ben c'est ça. Puis j'ai été aussi chanceuse parce que... Il aurait pu ne pas vouloir aussi que sa vie fasse l'objet d'un spectacle. Puis là, ben, c'est quand même une super belle collaboration qui se développe à travers le temps.
Ben justement, c'est quelque chose qu'il doit vraiment apprécier du spectacle, le fait que tu sembles vouloir faire une représentation qui se tient vraiment proche des interactions. En fait, c'est parce que le format du spectacle, c'est il y a une partie qui vient de l'histoire des entretiens mm-hmm. que t'as eu avec Maurice, puis l'autre partie qui est totalement improvisé. C'est une bonne transition vers ma prochaine question. Donc, j'étais là la soirée de Lucie.
Ah oui!
C'était la travailleuse sociale qui est tellement à l'écoute. Puis, c'est ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'interaction. Donc, vous avez parlé un peu dans votre entretien avec Émilie Perrault de vos nerfs. Tes nerfs, puis de ton sentiment d'anxiété, d'anticipation chaque soir avant de monter sur scène et de faire face à un public, on espère, volontaire, capable, qui participera à votre spectacle. Puis Donc, j'étais là le soir du 7 janvier, puis ce qui m'a vraiment marqué comme spectatrice, en fait, c'était sa performance. J'ai trouvé sa performance captivante, sa capacité d'écoute. Puis c'est ça, je veux la féliciter si jamais elle écoute le show. Et j'ai beaucoup aimé le moment où Maurice s'est comme plongé dans son propre bagage émotionnel pour parler de son père absent. Et Lucie a pu compatir avec lui. Donc, en jouant sur scène ce soir-là, y a-t-il des moments, s'il y en a, qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont fait dire « Ah, ben c'est pour ça que je fais un spectacle dans ce format-là. »
L'idée de prendre une spectatrice ou un spectateur qui vient voir le spectacle, qui ne sait pas qu'il va se retrouver sur scène, nous est apparue à un moment donné comme vraiment intéressante parce que cette personne-là est au degré zéro, comme les autres spectateurs, elle ne connaît rien du spectacle. L'autre affaire que ça nous permet de faire, c'est de recréer un peu la rencontre que j'ai eue avec Maurice, mais aussi... tu sais, avec la pandémie et tout ça, on a été tout seul. Les gens aussi qui ont des handicaps, des fois, ils souffrent vraiment de solitude. Donc, dans les entretiens, Maurice me disait ce dont il s'ennuie le plus, à part de ne pas pouvoir lire, c'est des autres. Puis il résume, Maurice soif les autres. Donc, on a construit le spectacle. Comme tu disais, il y a une partition solide, donc à partir d'entretiens avec lui. Donc, c'est carrément des verbatims, un coupé-collé de certaines entrevues, comme on va faire du montage pour un documentaire, par exemple. Puis, il y a des moments où on questionne la spectatrice ou le spectateur sur le Québec, l'amour, toutes sortes de
le
questions.
Le sexe aussi.
Oui, tout ça. Et ça... À chacune des représentations, il y a une petite perle, comme toi, tu étais là le soir où Lucie a bien voulu venir jouer avec moi. Hier, c'était un homme qui s'appelait Benoît, qui était extraordinaire. Tu sais, il y a juste 4 % de la population qui va au théâtre, puis moi, j'étais un peu obsédée par cette statistique-là. Je me demande continuellement pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut... Puis, mais les gens qui y vont, on tombe souvent sur des gens extraordinaires qui ont beaucoup de compassion. Puis les gens vont se livrer ou pas, mais on va en apprendre un peu sur eux. Puis le spectacle, comment il est fait, comment il est mis en scène par Olivier Artaud, il va révéler aussi la personnalité, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est en situation de handicap. Est-ce qu'on va parler à sa place? Est-ce qu'on va l'aider? Est-ce qu'on ne veut pas l'aider? Est-ce que pour son bien? En tout cas, il y a tout ça. Mais il y a aussi une véritable rencontre. Puis le théâtre, là, c'est un art vivant. C'est un feu qu'on se fait à la gang. Puis le show, il existe juste de cette façon-là, ce soir-là. Souvent, on le dit, tu sais, chaque spectacle est différent, mais je pense qu'à travers cette forme-là, le spectacle est vraiment teinté de ce bon samaritain ou de cette bonne samaritaine qui va bien vouloir venir jouer avec moi, avec Maurice, en fait.
Le 17 janvier, quand j'étais là sur place, j'ai trouvé que le monde avait aussi soif des autres. Puis c'est quelque chose qu'on souligne à chaque semaine depuis la rentrée scolaire en septembre ou dans le show Dans les airs. On va voir des spectacles, puis on remarque à quel point les gens ont vraiment le goût de participer, d'être même collés à côté des inconnus et de voir quelque chose de réel, en vraie vie, de s'entendre, même l'odeur. Puis je voulais parler un peu de ça avec la mise en scène, si tu me permets. Donc, vous commencez la pièce en brûlant un bâton d'encens qui remplit la pièce de fumée. Et c'est comme une petite touche dramatique, j'ai trouvé, qui donne le ton au monologue de Maurice. Bien entendu, c'est pas un monologue au début parce qu'il cherche ses mots. Puis la fumée, ça remplit vraiment la salle et elle est poussée jusqu'au fond, au dernier rang où moi j'étais assise. Donc, ce que je peux te demander, qu'est-ce qui a inspiré cette idée-là?
Mais en fait, c'est vraiment technique. La réponse est un peu plate, tu m'excuseras. Mais on n'a plus le droit de fumer au théâtre. Il y a eu des théâtres qui ont eu des contraventions.
Ah oui.
Pour des cigarettes, fumer sur scène, même si c'est des cigarettes de théâtre. Moi, mon sujet documentaire, Maurice, il fume. Il fume beaucoup.
Oui.
Il fume énormément. T'sais, après le spectacle, il va dire émotion. Puis après ça, il va dire fumer. Fait que moi, pour bien le représenter, c'est sûr qu'une cigarette qui fume, là, on n'a pas le droit de fumer. Même fait qu'on a mis une fausse cigarette dans le cendrier avec un bâton d'encens. Puis aussi, à la fin, on parle aussi de ces restrictions-là. Est-ce qu'elles sont nécessaires ou pas, tu sais? Mais moi, quand tu as nommé en début d'entrevue que j'avais été directrice artistique du Théâtre du Trident, c'est un gros théâtre à Québec. J'étais bien chanceuse de faire ça. Mm-hmm. Mais on a eu cette contravention. Puis est-ce que, tu sais, pour moi, tant que... Moi, je fume pas dans la vie. Mais tant qu'il y a des humains qui vont fumer, il faut qu'il y ait des artistes qui puissent représenter le fait qu'ils fument sur scène.
Oui.
D'une façon non toxique. Pour ceux qui ont, ceux et celles qui ont des faiblesses pulmonaires, mais pour moi, c'est une affaire de liberté d'expression. Donc, c'est un truc compliqué. Puis on voulait pas... comme on voulait pas annuler le spectacle pendant la pandémie puis annuler le fait qu'il y ait une spectatrice ou un spectateur qui vienne jouer avec nous, bien, on veut pas retirer cet élément-là non plus du spectacle.
Oui. Ouais, c'est un très bon point d'ailleurs, puis j'avais même pas pensé à ça. Moi, j'étais sous l'impression que on voulait baigner la scène avec une odeur parce que peut-être Maurice aimait beaucoup l'encens. Puis
ouais, c'est ça, c'est un truc. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on voulait représenter le fait qu'il y a une cigarette qui fume, donc un personnage qui va aller avec ça, donc un espèce d'appel. Mais aussi souvent on met un petit peu de fumée dans la salle parce que ça permet de découper les éclairages.
Ah oui.
Donc il y a aussi cette chose-là, que ce soit par des machines à boucan ou d'autres petits trucs, ça permet vraiment de faire apparaître des effets d'éclairage qui seraient invisibles ou presque invisibles ou intangibles si on faisait pas ça.
Mais c'est super intéressant, merci. puis j'ai été très touchée en tant que spectatrice de voir une pièce sur la vie d'une personne, une personne handicapée, ses conditions de vie, sans passer sous silence les détails, comme vivre avec un budget très maigre. Puis j'ai apprécié l'honnêteté dont vous avez traité ça, vous, Maurice, dans ses entretiens, parce que bien sûr, ça vient de son honnêteté. C'est ça, vous avez fait preuve à ce sujet. Dans la pièce, Maurice dit qu'il passe d'un salaire d'économiste à 20 000 $. Est-ce que j'ai bien compris ça?
C'est une personne qui a été paralysée d'un côté suite à un AVC, puis il est aphasique, donc il n'est pas capable de prononcer tous les mots. C'est comme... mais il synthétise sa pensée. Tous les mots sont à l'intérieur de lui, mais ils sortent pas. Donc, sa condition fait qu'il a travaillé après son accident pendant 23 ans. Puis là, à cette heure, il a droit à une rente qui est de 20 000 $ par année, effectivement. Il dit okay. Indexé, par exemple, mais peanut.
Ouais.
C'est la façon dont je te dis pour dire que c'est négligeable, mais il nomme aussi le fait que la pauvreté est une souffrance inutile puis que tout est un combat. Mm. C'est ça aussi qui m'a livré en entrevue. Tu parles de sa vérité, de son honnêteté. C'est aussi le fait que les aphasiques, souvent, pas toujours, mais il dit aphasique, filtre inexistant. Donc, ils disent les choses. Donc, ils vont vivre les colères au temps présent, mais aussi les grands charmes, les grands... Donc, tout ça est très, très intense et comme augmenté un petit peu par cette condition.
C'est ça, comme le moment où il demande à Lucie d'ouvrir... Lucie, la spectatrice, d'ouvrir la carte de son frère.
Mm.
Puis c'est ça, il est incapable de se retenir.
Mm-hmm.
Et il exprime sa colère, sa peine aussi. Ce qui est vraiment touchant, même sans avoir les mots pour y arriver. Et c'est ça, donc j'ai essayé de faire mes propres recherches sur les assistances pour des personnes en situation de handicap. Puis j'ai été vraiment frappée sur ce 20 000 $. Mm-hmm. Et c'est ça, je me demandais, est-ce que c'est vraiment tout ce que les personnes handicapées ont pour survivre dans cette province? Et c'était peut-être pas voulu puis vous allez me dire oui ou non. C'est un message politique très fort qui passe dans votre spectacle parce qu'il y a surtout beaucoup de personnes pour qui ce revenu garanti minimum, ben c'est pas un sujet à lequel on penserait de jour à jour comme étudiante, comme personne de la classe moyenne. C'est comme des clients. J'étais pas capable de dormir avant de faire mes recherches sur ça. Je pensais être quelqu'un de très, très éduqué sur le plan politique, plan social. Mais c'était très frappant. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que le fait de mentionner le chiffre, c'était juste ça, pour faire du verbatim ou?
Pour moi, mon objectif en choisissant les thématiques, donc il y a la pauvreté, mais il y a aussi la vie après la mort, l'amour quand t'es handicapé, le transport quand t'es handicapé, oui, puis aussi rire. Là, tu sais, on parle de sujets très lourds pour les gens qui n'ont pas vu la pièce. On rit beaucoup aussi dans le show. Je pense que c'est bien important de le dire.
Oui.
Parce que pour moi, c'est pas parce qu'on parle de thématiques lourdes qu'il n'y a pas de jeu de l'esprit, tu sais. Souvent au théâtre, les choses vont être séparées, mais dans la vie, c'est tout mélangé. T'sais. On rit, on pleure, on rit de notre condition. Puis ça, pour moi, c'est super important, là, parce qu'aussi, le rire nous permet de nous ouvrir puis d'être plus touchés. Là. Ça, c'est une autre affaire, une petite parenthèse. Mais tu sais, tous les sujets ont été choisis parce que pour moi, ils revêtent une importance puis une pertinence. Autant le lien social, est-ce qu'il disparaît ou pas? Comment le maintenir quand on est complètement transformé. Ça ne doit pas être évident non plus de transiger avec quelqu'un qui n'a pas de filtre puis qu'on a connu dans une certaine façon puis que là, on le voit complètement diminué. T'sais. Ça, c'est sa version à lui, mais il y aurait probablement d'autres choses à dire aussi sur la version de tous les autres. C'est un séisme pour tout un groupe de personnes. Mais pour moi, c'est juste important d'en parler. Sans souligner des gros trucs. Puis toi, tout ça, ça t'a touché toi. Puis il y a quelqu'un, ça va être plus, mon Dieu, je repense à sa conception de son coma, ce qu'il a vécu, tout ça. Donc chacun, j'aime ça en prendre, en mettre pour plein de monde, puis les gens prennent ce qu'ils veulent. Comme dans un Astérix, tu sais, il y a plein de niveaux de lecture. Oui. Pour moi, c'est important que l'art soit pop dans le sens noble du terme. Il doit parler à notre cœur, à notre intelligence, puis des fois aussi à notre corps. Puis on prend ce qu'on veut là-dedans. Toi, ce truc-là t'a touché super. Quelqu'un d'autre va me parler d'autres choses. Mais l'idée aussi que la représentation qui est éphémère, bien, elle dure en nous. Elle perdure en nous. Un bon spectacle, on va y repenser le lendemain, le surlendemain, il va vivre longtemps en nous. Puis ça, moi, c'est aussi mon objectif.
Oui, c'est très bien dit, merci. ça répond à ma question, puis ça... Puis ça m'amène un peu à une autre question qui n'était pas planifiée. Ouais. Donc, si on aime ça.
Mais oui.
Est-ce que Maurice, il s'accrée toujours comme ça dans la vie?
Avant?
Ouais. Non. C'est vraiment son AVC puis l'aphasie, oui, qui fait en sorte qu'il n'y a plus de filtre, qu'il sacre comme il veut, comme on le fait dans nos têtes.
Il a été 9 jours dans le coma, puis quand, oui, il s'est réveillé, les deux seuls mots qu'il pouvait dire, c'était des sacres. Pis c'est sûr que lui, il trouve ça laid. Quand il trouve ça difficile de voir le spectacle, il trouve ça laid qu'il s'exprime, mais la syncope du langage crée aussi une poésie. Mais le fait qu'il n'y ait pas de filtre, il y a des sacs comme ça, mais elles vont ajouter de la poésie, puis des fois même de la force à un propos. C'est-à-dire que dans les sacres, il y a un super documentaire qui a été fait sur les sacres au Québec. Je le recommande à tout le monde. Tu sais, les sacres, c'est non seulement une façon de s'exprimer, mais des fois, ce sont des verbes, des fois, des qualificatifs. Il y a là-dedans énormément de charges émotives.
Oui.
Fait que, par exemple, à la fin du spectacle, il fait un ode tout petit à la liberté. Puis là, je sais pas si je peux sacrer sur les ondes.
Oui.
Mais tu sais... S'il avait dit « Vive la liberté », ben c'est moins fort que « libre, hostie, libre ».
Exactement.
Tu sais, il y a comme là-dedans des ailes, puis ça fait comme un petit haïku qui nous donne beaucoup de souffle, puis tu sais, j'en parle, j'ai des frissons. Donc, cette chose-là, pour moi, elle m'apparaît intéressante, puis comme c'est bizarre parce que la société québécoise va plus de temps à l'église, mais on est encore réticent par rapport au sacre. Puis moi, je pense qu'au niveau émotif, on doit vraiment se libérer de ça et aussi de tout ce qui... des espèces de restants judéo-chrétiens avec lesquels on jongle encore. C'est normal d'avoir des espèces de séquelles, si on veut, mais il faut s'en libérer. Puis la langue, tu sais, Elvis Gratton, tu sais, c'est pas juste un colon canadien-français, c'est aussi quelqu'un... C'est que ça dit quelque chose de nous. Autant comme la cigarette est dans la vie, on va la retrouver sur scène, c'est la même chose pour moi, pour les sacres. Mais au-delà de ça, il nous permet aussi de transcender des émotions, des idées. Fait que c'est je ne vais pas surutiliser des sacs, mais pour moi, ça m'apparaît hautement intéressant.
Je suis tellement contente que cette production existe et que les gens peuvent aller voir, creuser un peu dans la force de Maurice, parce que c'est un homme très fort. Puis on peut faire cette lecture à travers ta représentation.
T'sais, pour moi aussi, mon but, c'était... Il y a des gens qui vont mélanger l'aphasie et la déficience mentale. C'est pas pantoute la même affaire. C'est une autre affaire. Puis, tu sais, je pense qu'après ce spectacle-là, bien, cette distinction-là, déjà, elle va être faite. Mm-hmm. Puis, on a beaucoup à apprendre. Puis, souvent, on va juger très rapidement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les personnes? Qu'est-ce que t'as vécu? Qu'est-ce que tu es handicapé ou non? Qu'est-ce que t'as vécu? Tu sais, c'est quoi tes stigmates? C'est quoi tes espoirs? C'est quoi tes rêves? Puis ce spectacle-là, moi, j'espère qu'il peut être un baume. Puis moi, je suis quelqu'un de très pessimiste dans la vie. Je cherche beaucoup le sens de la vie. Mais je pense qu'ensemble, on peut le trouver. Tu sais, fait que ça fait partie un peu de ce que je veux dire avec ce spectacle-là.
Oui, exactement. Vous pouvez voir Maurice au théâtre d'aujourd'hui. Si je comprends bien, il y a cinq rappels qui vont se faire.
Il y a 7 supplémentaires qui ont été levés. Il va peut-être en avoir une 8e. Donc, on est là jusqu'au 11 février.
Et je suis tellement contente que tu es venue dans les studios de Choc aujourd'hui. Puis je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Anne-Marie.
Ben merci d'aimer la culture puis d'en parler. C'était génial.
Somnambule, je marche droit comme un...